Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Et oui, fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de violences faites à l'enfant. Que faire pour en finir? Comment en finir avec les violences faites à l'enfant? Nous recevons dans cette émission Maître Albert Labani, défenseur des droits humains et consultant à la Commission diocésaine Justice et Paix d'Uvira. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, sera avec nous, ainsi que Monsieur Godé Kayembe, président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. L'ISADEL en sigle. Pour participer, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Willem Lungamba, la mise en onde, Tati Mapuku assure la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Les violences faites aux enfants sont répandues dans nos familles, écoles et communautés. Le dernier cas qui défrait la chronique à Uvira, c'est celui d'un oncle qui a brûlé les fesses de ses neveux, deux jumeaux orphelins de 8 ans, avec un fer à repasser électrique. C'est sa façon de les corriger pour avoir mangé des bananes sans son autorisation. Et il a été relaxé quelques temps après son arrestation. Le réseau local des protections des civils à Uvira dénonce ce qu'il qualifie d'impunité de la justice. Comment alors lutter effectivement contre les violences faites à l'enfant? Comment en finir avec ces genres de situations? Eh bien, nous allons en parler tout au long de cette émission. Repasser les fesses des enfants pour avoir mangé les bananes à la maison, ben voilà, des choses qui arrivent. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à suivre le récit de la situation dans ce reportage de Fiston Ngoma Mayabala.
L'incident s'est passé le 11 janvier dernier dans un quartier de la ville d'Uvira. Après son forfait, le présumé auteur a gardé la nouvelle avant de déplacer les enfants victimes de son domicile pour des soins traditionnels auprès de leur tante. 4 jours après, la nouvelle a fuité et est parvenue aux femmes défenseuses des droits de l'homme d'Uvira. Marie Misukio est responsable de l'ONG Sophie Beff et modératrice de cette synergie des femmes défenseuses des droits de l'homme.
Nous sommes allés d'abord, on a commencé par les parquets, nous sommes descendus vers la mairie et c'est là où nous avons trouvé presque tous les membres du conseil de sécurité en réunion. Et à leur sortie, nous avons donné notre message. Ça nous a vraiment blessés, c'est pour cela que nous avons dit qu'on ne peut pas se taire. Puisqu'on peut se taire lorsque c'est une chose qui a été faite par exemple au hasard ou par accident, mais dire qu'on a repassé les enfants parce qu'ils ont mangé la banane dans leur maison. Ça nous a vraiment beaucoup choqués.
Vous soupçonnez quoi au niveau de la juridiction locale?
Bon, on ne peut pas confirmer qu'il y a eu corruption, puisque après échange avec les maires qui nous a confirmé qu'il n'y avait pas la corruption. Mais tout ça, nous avons dit que ça peut être autour de ces mêmes dossiers. Donc il peut y avoir la corruption, il peut y avoir les pardons, il peut y avoir l'arrangement à l'amiable. Si tout ça peut se faire, il serait mieux. Il y a réparation bien sûr, mais qu'on sache comment ça évolue.
L'affaire distillée dans les réseaux sociaux a été récupéré par les réseaux locaux de protection des civils d'Ouvira. Selon son modérateur Yves Ramazani ou Ramazani, tous les efforts sont fournis en ce moment pour que justice soit rendue à ces enfants victimes. Et cela, même si la famille concernée a demandé pardon et aurait tendance à régler l'affaire à l'amiable. Pour Yves Ramazani ou Ramazani, les droits de l'enfant doivent être respectés avec rigueur et servir d'exemple au regard des cas similaires récurrents de violation des droits de l'enfant.
Nous disons que même si les enfants sont en dehors maintenant de leur juge naturel, il faut que le monsieur réponde de ses actes. Nous avons plusieurs informations par rapport aux enfants, mais cette situation sous examen, c'est une situation qui nous inquiète tous. Il y a des enfants qui travaillent, des enfants bonnes, des domestiques, qui croupissent de telles situations dans des familles. Mais cette situation a été décriée puisque c'est pas normal un parent de prendre ses enfants, de les passer sur les fesses de ses enfants. Vraiment, c'est une situation qui n'est pas bonne, que nous décrions et nous voulons que la justice fasse son travail pour que les gens prennent ça comme un modèle et que celui qui a fait ça réponde de ses actes.
Au niveau des confessions religieuses, certains hommes de Dieu condamnent avec la dernière énergie ce traitement inhumain de cette créature de Dieu. Patricia Kongolo est pasteur à l'église El Shaddai.
C'est inhumain, on ne peut pas traiter un enfant de la sorte. Torturer jusqu'à ce point-là, c'est tuer. Or, on ne peut pas tuer un être humain. Ce que je peux conseiller aux parents, c'est de prendre soin des enfants. Même son neveu, c'est aussi son enfant. Et je crois que cet oncle-là aussi a des enfants. Et si on traitait l'un de ses enfants de la sorte, quelle serait sa réaction? Bon, nous ne sommes pas là pour juger, mais il y a des actes qui sont punissables et condamnables parce qu'il y a aussi la loi.
L'autre point de vue, c'est celui de Guilain Mounzi, pasteur à l'église Seboko Kimanga.
Le mécénat, il doit être procédé puisque un parent normal ne peut pas prendre des fers et repasser les fesses des enfants comme ça. Vraiment, c'est à condamner. Il doit être vraiment puni selon la loi. Si les hommes de Dieu peuvent penser aussi à ces messieurs-là, puisque ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui passent leur journée à l'église pour chercher les enfants. Ils prient que Dieu puisse les aider à avoir des enfants. Mais toi qui as eu des enfants et tu commences à punir les enfants comme ça, ce n'est pas normal. Ce sont des démons. Peut-être qu'il mérite la délivrance.
Contacté à ce sujet, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ouvira, André-Pierre Kassendengoy, souligne que le dossier se trouve encore en instruction au niveau du tribunal de paix d'Ouvira. D'Ouvira, Fiston Mamayaba, la radio Okapi. Okapi.
Merci Fiston Ngoma Mayabala pour ce reportage. Que faire pour en finir avec les violences faites à l'enfant? Repasser les fesses des deux enfants des 8 ans pour avoir mangé sans autorisation les bananes à la maison. Nous avons en ligne Maître Albert Labani Moussambia, défenseur des droits humains et consultant à la Commission diocésaine Justice et Paix d'Ouvira. Maître Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs et je vous souhaite le meilleur.
Bienvenue dans cette émission. Alors dites-nous, maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec les violences faites à l'enfant?
Je voudrais d'abord dire de prime abord que la situation effectivement qui s'est passée au Fira, c'est une situation très compliquée. Ça nous préoccupe tous sur le plan du droit. La question de savoir comment lutter contre ces violences faites à l'enfant, c'est très clair. C'est tout simplement la question de lutter contre l'impunité. Et ce débat arrive à un moment très important, avec l'avènement de l'état de droit, tel que mis en place ou au premier plan par le chef de l'État. Sur le plan de droit, la protection des droits de l'enfant est prise en considération et prend une place considérable parce que plusieurs instruments juridiques en parlent. Et là, il faut parler d'instruments juridiques internationaux et instruments juridiques nationaux. Donc, sur le plan d'abord international, il faut souligner, monsieur le journaliste, que plusieurs conventions internationales protègent l'enfant. Et là, il faut rapidement avoir la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989. C'est une convention relative aux droits de l'enfant et protège scrupuleusement le droit reconnu à l'enfant.
Maître Albert, on a suivi à Ouvira que les défenseurs des droits humains ne sont pas d'accord avec la justice au niveau local qui a relâché les tuteurs, prétextant que bon, c'est lui qui doit les prendre en charge. Si l'oncle est arrêté, les intérêts des enfants ne seront pas assurés.
Non, c'est faux, ce sont des motifs qui ne tiennent pas debout. Moi-même, j'ai décrié ça parce que la situation que nous avons actuellement, c'est une situation de torture. Parce que prendre des enfants, repasser leurs fesses, enlever leurs habits et repasser leurs fesses, tombe sous le coup de l'infraction torture. Ceci est puni par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant. Là, c'est de la torture. Alors, le monsieur ne devrait pas être effectivement arrêté, disons, libéré dans 48 heures. Le monsieur devrait être détenu jusqu'à ce qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé, comment les enfants, comment leur justice sera rendue. Mais directement les enfants arrêtés dans caractère libéré, ça nous a beaucoup inquiétés, ça a inquiété presque tout le monde. Donc le fait de le libérer, de son séparat là, le monsieur, n'était pas justifié. Dire que c'est là que le monsieur va chercher les moyens pour protéger ses enfants-là. Non, le monsieur devrait être arrêté et là, il devrait s'en occuper directement.
Mais on a appris que le dossier est encore au niveau du tripet à Ouvira.
Oui, effectivement, le dossier au niveau du tripet, nous avons pris le soin de contacter la dame chef de parquet près le tribunal de Ouvira, qui nous a dit qu'effectivement, elle a accordé la liberté provisoire et que les enfants vont rapidement être déplacés vers Goma, où se trouve la grande famille, mais aussi le monsieur est toujours effectivement à la disposition de la justice, même s'il est en liberté. Nous avons aussi contacté le procureur de la République par le tribunal de grande instance d'Ouvira, lui sollicitant de demander le dossier en communication pour de prendre ce dossier-là avec beaucoup de soin. Malheureusement, jusque-là, le dossier est encore au niveau du parquet, pas le tripé Ouvira. Mais c'est ce qui nous indigne, parce que à notre niveau, on n'a pas compris quelles sont les motivations qui ont poussé, qui ont entouré cette liberté provisoire rapide. Voilà pourquoi ça a indigné tout le monde. Moi-même, j'ai reçu l'alerte de l'évêque de Sous-Douvira, Monseigneur Muyengo, qui nous a alerté en disant qu'il y a un cas grave et qu'il faut s'en occuper très rapidement. Voilà pourquoi on a commencé des contacts, des appels et autres. Donc, le dossier est encore là, mais on ne sait pas jusque-là comment ça évolue.
Bien, merci Maître Albert Labani Moussambia. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains et consultant à la Commission diocésaine Justice et Paix d'Ouvira. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée.
Merci beaucoup.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Comment finir avec les violences faites à l'enfant? Eh bien, le dernier cas qui défrait la chronique à Ouvira, c'est ce cas des deux enfants, deux jumeaux orphelins de 8 ans, qui ont vu leurs fesses être repassées à l'aide d'un fer à repasser électrique par leur propre oncle, qui est le tuteur. Monsieur Godet Kayembe est en ligne, il est président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISAD. En sigle, Monsieur Godet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi l'affaire qui s'est passée à Ouvira. Votre réaction, Godet Kayembe?
Oui, j'ai bien suivi toutes les réactions, mais ce qui nous étonne, c'est que ça fait 26 ans que nous avons travaillé pour qu'il y ait une loi spécifique pour la protection des enfants, parce que les enfants au Congo n'étaient pas protégés. Aujourd'hui, nous avons une loi qui protège les enfants. Mais ce que nous constatons, c'est que cette loi n'est pas d'application. Lorsqu'il y a une violence qui est faite à l'enfant, la première chose qui applique la loi en faveur de l'enfant, c'est que l'enfant il est vulnérable. Nous sommes étonnés aussi de constater que c'est le procureur, celui qui gère les dossiers, il est en train de la cour de la liberté provisoire au soi-disant oncle de l'enfant, mais qui est animé de mauvaises intentions. Et ce qui lui a manqué, c'est de le tuer. Ça, la messe, là, c'est tout compliqué. Il pouvait les empoisonner, il les tue. Et ce qu'il a fait, c'est très grave. Et d'ailleurs, s'il était de bonne volonté, il devait d'abord, premièrement, l'arrêter et trouver un endroit où il devait placer ses enfants. Ses enfants, on devait les placer soit à l'église, soit dans une organisation caritative. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui y allaient. Moi, je suis étonné de constater que le procureur à cause de la liberté provisoire à l'oncle pour des raisons qui ne sont pas valables. Et quand même, il pouvait être s'il était même le père géniteur des enfants, je crois qu'il ne ferait pas ce qu'il a fait là. Pour ces criminels, il doit être assimilé au criminel. On doit l'arrêter. Deuxièmement, vous savez, notre pays, surtout à l'est, il y a beaucoup de violences. On ne sait pas si les gens sont malades ou c'est exactement c'est à la suite du fait qu'il y a des violences récurrentes que les gens arrivent à manifester ces genre d'attitude. Donc, je crois que la première chose, ce serait d'appliquer la loi qui protège les enfants, la convention là-dessus, la loi qui la protection de l'enfant, qui est explicite à ce qui concerne les violences qui sont faites à l'enfant et la prévision de détention. Et il ne peut pas, tout de suite là, décider d'accorder la liberté qu'on doit à une personne qui a violenté de manière extrême les enfants. Et ça, c'est très grave.
Voilà, donc on ne devait pas accorder une liberté provisoire à ce monsieur rapidement.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que ces enfants ne vont plus, d'ailleurs, ils ne vont pas vivre avec lui. Et même, on parle que ces enfants devraient rejoindre une grande famille ailleurs. Mais pourquoi on doit libérer ce monsieur-là? Il devait être arrêté, sanctionné, purer sa peine.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi existe, comme vous l'avez dit, sur la protection des droits de l'enfant, mais il y a des problèmes au niveau de l'application. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour appliquer, justement, cette loi?
Je crois que l'unique façon de faire, et je demande aux organisations des droits de l'homme qui sont dans ces coins, là, de prendre à partie le procureur. On doit les traduire, le procureur n'est pas... n'est pas attaquable, il faut l'attaquer auprès des autorités judiciaires. Il a ses autorités, il faut l'attaquer. Montrer qu'il n'a pas sa place là-bas. Si le procureur ne sait pas protéger les enfants, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a la loi qui dit qu'il ne sait pas l'appliquer. Et il doit donner des raisons. Quelles sont les raisons qu'il donne? Même si quand même il peut donner des raisons, mais on doit l'attaquer. On doit l'accuser auprès des autorités. Il doit être interpellé lui-même pour qu'il dise pourquoi il a libéré cette figure. Et la loi, c'est qu'il applique sur les magistrats. Et sont des juges qui appliquent la loi. Si eux, à leur niveau, n'appliquent pas les banalités de la loi, à ce moment-là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ceux qui sont censés appliquer, ils n'appliquent pas, c'est compliqué.
Bien.
Alors, il y a une façon de les amener à appliquer et de les prendre à partie.
Alors, à ce stade où se trouve le dossier, qu'est-ce qu'on peut faire pour le relancer, pour le réactiver encore?
Oui, il faut demander ces dossiers, il faut aller demander ces dossiers en communication au niveau de la grande gestion et puis obtenir que la personne soit, que le dossier soit transféré au niveau de grande gestion pour que la personne soit jugée. Parce que la personne qui a le dossier est complaisante.
Bien. Merci à tous les internautes qui ont réagi nombreux sur la page Facebook de l'émission par rapport à ces sujets. Héritier Wamenga était à Kisangani. Il nous dit ceci. Par exemple, ici à Kisangani, un enseignant de 6e primaire a frappé son élève 100 coups de fouet sur la tête pour la simple raison que la fille en question voulait remettre une invitation d'anniversaire à son maître. Alors, rentrée à la maison, la fille qui avait des fortes inflammations était décédée après avoir été acheminée au dispensaire. Il faut noter que la loi sur la protection de l'enfant, le code de la famille, la charte africaine relative aux droits de l'enfant, ainsi que les droits humains protègent tout être humain en général et l'enfant en particulier. Le châtiment corporel à l'endroit de l'enfant s'accentue dans l'ignorance et sans poursuite judiciaire. Pour bannir ce genre de pratiques, il faut que tout le monde dénonce les cas des violations des droits des enfants, car nous prenons tous l'état des droits. Héritier Wamenga, depuis Kisangani. Nous avons en ligne Justin Kalabia, depuis Arou. Bonjour Justin.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Justin?
Merci beaucoup. Oui, par rapport à ce sujet, en tout cas, c'est un sujet très intéressant. J'aimerais parler par rapport à la violence faite aux enfants. Ici, chez nous, moi, je ne sais pas si, en tout cas, nous tenons compte de la violence ou bien des droits des enfants. Du point de vue, comme nous sommes dans cette période de couvre-feu, les enfants n'étudient pas. Et donc les enfants circulent par-ci, par-là. Et maintenant, il y a les enfants que les parents eux-mêmes donnent des enfants, des travaux aux enfants. Un enfant commence à faire même la vente de produits, donc circule par-ci, par-là. Et est-ce que ça aussi, ce n'est pas une violence quand un enfant qui est moins âgé, un enfant moins de 18 ans, le papa commence ou la maman commence à donner une certaine responsabilité à circuler avec des produits ou bien avec certaines marchandises par-ci par-là dans des quartiers? Est-ce que ce n'est pas aussi une violence? C'est ce que j'aimerais que l'invité du jour puisse nous éclaircir. Si le papa ou bien la maman n'a pas aussi une responsabilité à ce que lui aussi ou bien elle aussi elle peut assumer par rapport à donner à son enfant. Merci beaucoup et bonne journée.
Bien, merci. Monsieur Godé Kayembe.
Oui, merci. Je comprends qu'il y a une préoccupation, mais il doit savoir que quand c'est qu'on interdit dans la loi, c'est la pire forme de travail. La femme ne peut pas être enrôlée dans l'armée, la femme ne veut pas travailler, faire un travail qui est au-delà, ou qui ne répond pas à son âge, ou qui ne répond pas à son poids. Et si le parent doit responsabiliser l'enfant, même partout ailleurs, ça existe. On responsabilise l'enfant parce que l'enfant, il ne doit pas continuer. Il m'a resté enfant. Mais il doit être initié à la vie adulte. Et déjà, ça, c'est pas un problème, mais ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on prend l'enfant, on lui donne le travail qui ne répond pas à son âge. Donc, soit un enfant, il est enrôlé dans l'armée, soit il est enrôlé dans la police, soit l'enfant, il est enrôlé dans les forces occultes. Et ce sont des choses comme ça où il est utilisé abusivement. Alors, mais quand c'est concerne la responsabilité, des responsabilités qu'on donne à un enfant dans le sens à le préparer à devenir adulte, moi je ne vois pas l'inconvénient parce que même aux États-Unis, il y a des initiations qu'on fait pour les enfants. Déjà à l'école primaire, on initie les enfants à jouer le rôle d'adulte parce qu'il ne va pas continuer à être enfant.
Bien. John Kabemba, la rhétorique, nous a écrit depuis le Kasaï central. Il dit que ce père, cet oncle, doit être condamné à 20 ans de prison. Le soleil n'oublie aucun village. Voilà ce que nous dit John. Donc, d'après lui, il faut 20 ans de prison pour cet oncle qui a brûlé les fesses des enfants. Monsieur Godé Kayembe, votre réaction?
Oui, je crois que par rapport aux violences physiques, il y a une disposition qui doit prévoir le nombre d'années que la personne doit faire. 20 ans de prison, je ne pense pas. Mais il doit y avoir, être sanctionné. Je crois que ça ne doit pas dépasser 3-4 ans. Mais ce n'est pas 20 ans qu'on le dit. La loi ne l'a pas dit. Peut-être, comme c'est une violence physique à lui faire à l'enfant, il y a une disposition de la loi qui prévoit le nombre d'années que la personne peut passer en prison.
Bien. Ingénieur Pierre Moussafiri nous a écrit depuis Goma. Il dit « Je regrette, tout en condamnant l'acte posé par cet oncle, il mérite vraiment une punition. À mon avis, je pense que les charges de protection de l'enfant ont toujours un grand travail à faire, surtout au niveau rural où les parents n'ont pas d'informations suffisantes sur la protection et droits de l'enfant, car les enfants soumis à des punitions graves et beaucoup de parents utilisent les fouets et ne donnent pas à manger pendant la journée en disant que c'est de cette façon qu'ils vont mieux corriger les enfants, et comme conséquence certains d'entre eux arrivent à se retrouver dans la rue pendant que les parents sont toujours vivants à cause des punitions pareilles. Enfin, nous demandons aux chargés de protection de l'enfant de pouvoir sensibiliser de plus en plus la population, surtout dans les milieux ruraux, par rapport à cela. Monsieur Godé Kaimbe.
Oui.
Votre réaction par rapport à ce que Pierre Moussafiri vient de dire?
Moussafiri n'a pas tort. Mais ce qui nous étonne, c'est que il y a eu beaucoup de fonds investis pour vulgariser cette loi dans tous ces milieux-là. Il y a eu beaucoup de fonds investis à l'Est pour vulgariser cette loi-là à l'Est. Et je suis étonné de constater que lui-même se plaint, il n'a pas connu. Alors que ces fonds-là ont servi à quoi? Et on doit servir, on doit autant financer l'Est pour qu'on vulgarise les lois, les mécanismes de protection. Et toutes ces choses-là ne sont pas assimilées par la population. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut toujours responsabiliser les armes, mais chacun y est responsabilisé, il joue son rôle correctement. Nous pensons que à ce niveau, il faut absolument davantage renforcer le pouvoir public, renforcer la formation au niveau des écoles, renforcer toutes ces notions au niveau des écoles, pour qu'au niveau des écoles, qu'on ait un nouveau citoyen capable de pouvoir réfléchir autrement. Nous sommes en plein 20e siècle. Ça n'a aucun sens de continuer à marginaliser les enfants, parce que les enfants, c'est notre avenir. Il faut les protéger. Il faut absolument que la communauté puisse travailler dans le sens de la protection collective. À ce moment-là, nous espérons que la situation des enfants pourront trouver des causes plus tard. Parce que si les enfants grandissent dans des violences actuellement, et qu'il n'y a pas de mécanisme pour les protéger, quand ils vont grandir, ils vont pouvoir perpétuer les violences. Et ils vont considérer ça comme une réalité. Donc il faut, par contre, faire un effort pour que dans notre société, qu'il n'y ait plus de violence contre les enfants, parce que les enfants, c'est notre avenir.
Bien, les enfants, c'est notre avenir. Théophile Wambui, depuis Mbujimaï, nous dit ceci: à mon humble avis, je constate que pour mettre fin aux violences faites à l'égard des enfants, primo, nous avons des ONG qui défendent les droits des enfants, c'est-à-dire les ONG qui doivent s'impliquer, donc communiquer un numéro vert aux populations. À ce moment-là, les gens peuvent dénoncer quand il y a directement des cas de violence. Segundo, l'État congolais a du pain sur la planche, car le Congo de demain, c'est cet enfant-là, c'est-à-dire l'État doit pouvoir collaborer avec les ONG des droits des enfants afin de dénoncer les cas de violence faites à l'enfant. Gaston, Maître Gaston nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, joli.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons des violences faites à l'enfant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, là, vous parlez de l'enfant. L'enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans, selon la loi. Je pense que c'est cette personne-là qui est concernée aujourd'hui. Alors, je sais une chose, que l'enfant qui évolue dans une famille, premièrement, et peut-être aussi en dehors d'une famille, c'est cet enfant-là qui aujourd'hui n'est pas orienté, parce que ce qui est vrai, selon la loi, l'enfant doit être guidé par rapport à sa formation, qu'il devienne utile. Les enfants deviennent utiles dans la société. Et de là, je vois que la famille devrait s'impliquer premièrement, la famille devrait s'impliquer, parce que mettre au monde, vous savez, aujourd'hui, c'est la majorité des cas qui mettent au monde sont des fous. surtout en RDC, et tout ce monde qui vient au monde, qui vient dans ces pays sont enfants. C'est surtout, surtout ces enfants-là, je dis surtout, qui posent problème. Mais je pense que l'enfant, comme la situation est telle que l'enfant est en train d'être exploité pour trouver, pour survivre, donc dans nos familles, parce que par là où on voit les enfants se battre pour trouver ne serait-ce que leur pain, ces enfants-là, mais il y a d'autres aussi qui apparemment naissent dans des familles nanties, mais qui sont aussi
Maître Gaston, oui, quelle est votre question, surtout par rapport à ce qui est arrivé à Ouvira, un oncle qui a repassé les fesses des enfants de 8 ans parce qu'ils ont mangé les bananes sans l'autorisation. Quelle est votre préoccupation à ce sujet?
Oui, mais je dis, par exemple, quand vous racontez ce que vous racontez là, qu'un oncle, parce que l'enfant fait ce nom, il y a plusieurs d'autres paramètres qu'il fallait, si on était là, qu'on pouvait aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous parlez de faire à repasser.
Faire à repasser électrique.
Je pense qu'il y a les courants. Je ne pense même pas qu'il y a les courants là-bas. Mais s'il arrivait que c'est dans une maison, il y a les courants où l'oncle s'est permis de faire ça. Mais vous êtes sans ignorer que dans nos familles, nous tous, on a subi des sanctions, paix soit-il, ou parce qu'on avait bouffé quelque chose qui n'était pas permis que vous puissiez bouffer. Ça peut arriver, mais le vrai problème c'est quoi? Cette méchanceté là est le fait des adultes qui pensent qu'ils corrigent les enfants dans ce sens là. Mais ces enfants là, ils sont dans la rareté où on passe toutes les journées affamés, et vous savez, même en droit, si un tel enfant était devant moi, je pouvais faire les condamner des voleurs. Non. Parce que la vie d'une personne dépasse même ces aspects-là, ces qualifications juridiques.
Donc,
il y a un aspect sentimentaliste qui s'est passé dans cette famille-là où l'oncle s'est permis de faire ce qu'il a fait, mais en réalité, si l'enfant est vivant, ça va rester cicatrice et l'enfant s'en souviendra dans l'avenir. Donc, voilà un peu ce que j'avais pour dire que les enfants sont sous notre orientation et nous, lorsque nous les orientons surtout sur les plans de satisfaction des besoins. Et puis vous parlez d'un oncle, d'un oncle ou un neveu, c'est là. Vous savez comment les neveux, dans les familles, ils sont traités. Mais si c'est l'enfant, c'est là où je dis qu'on voit les enfants dans ces mêmes familles où les enfants, qui sont les enfants, mais ils se comportent de la même manière que les neveux, ils prennent des choses sans permission, ils roulent dans les voitures des parents, ils portent même des habits des parents, mais les parents ne font rien. Là, c'est un neveu, ils se révoltent.
D'accord, donc, merci Gaston. Merci Gaston de Kinshasa. Monsieur Godeka Mbé, vous avez la parole.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez, votre réaction par rapport à tout ce que nous venons d'entendre là?
Je crois que la meilleure prévention, c'est la sanction. La meilleure prévention contre les violences des enfants, c'est la sanction. Lorsque la société continue à violenter les enfants, à mener des actions inappropriées contre les enfants, si le juge qui n'est pas, qui est censé pouvoir faire son travail, il ne le fait pas, à ce moment-là, il encourage d'autres violences. Il encourage d'autres personnes, s'ils sont d'autres personnes violentes, à continuer à torturer les enfants. Je crois que la meilleure leçon serait de sanctionner. D'ailleurs, quand ils se plaignent, ils disent que la population ne connaît pas la loi, mais je crois que ce serait une belle opportunité que la personne soit sanctionnée pour que toute la communauté en serve l'exemple. Moi, je me souviens qu'une fois, nous avons commis le cas d'un enfant qui a été brûlé vif, accusé de sorcier, à Pandalem, du côté de. Il a été brûlé vif.
Par ses propres parents.
Il avait des descendus. Pardon?
Par ses propres parents.
Non, par le voisin. par le voisin.
Okay.
Le voisin, bon, l'accusé d'avoir continué à la mort de leur soeur, leur fille, qui a fait une étudiante à l'université, qui avait avorté elle-même. On prend la charge, on met sur un enfant de 8 ans, et cet enfant a été brûlé du feu. Et lorsque nous sommes allés dans ce coin-là, faire arrêter la famille, toute la famille, et je crois que ce coin-là, jamais, vous entendrez s'il y a des problèmes. Et que quelque part, là, c'est la sanction qui permet à la, qui corrige, c'est la sanction qui prévoit, la sanction qui permet que la société puisse fonctionner normalement. Alors, je crois que la meilleure façon de faire pour le juge, celui qui a le dossier de l'enfant, serait de sanctionner sévèrement le papa et vulgariser cette sanction au niveau du coin pour que tout le monde sache que les enfants sont protégés. Il faut éviter de faire n'importe quoi à l'enfant. Et s'il banalise hein, à ce moment-là, il ouvre la porte aux violences contre les enfants. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut la meilleure façon de régler le problème des sanctions. Et la meilleure façon de protéger les enfants, c'est de sanctionner les auteurs de violence. Et si on les sanctionne, ça donne la leçon aux autres potentielles personnes qui sont habituées à pouvoir marginaliser les enfants.
Que faire pour en finir avec les violences faites à l'enfant? On en parle dans cette émission Capi Service avec Godé Kaimbé, président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Comment finir avec les violences faites à l'enfant? Nous avons un auditeur en ligne, Eric Kabongo, depuis Likasi. Bonjour. Eric Kabongo, bonjour.
Je dis Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Eric?
Tout à fait. L'acte est vraiment posé dans cet angle ignoble parce que ça touche à la mère de l'enfant. Pour cela, que nous connaissons qu'il y a plusieurs moyens de corriger l'enfant dès qu'il va faire une erreur. Comment atteindre, il ne faut pas atteindre à son corps. Et en même temps, vous voyez, le fer à repasser qui arrive à son corps, ça posera maintenant de plaies, de quoi qu'il va maintenant parler. Deuxième chose, et cela, ça va donner si le monsieur pourrait maintenant d'abord comparaître pour qu'il puisse être, qu'il lui réponde, afin de préjuger, parce que ça donnera aussi le modèle à tous d'autres parents qui leur colère parvient toujours à mettre l'enfant en danger. Deuxième des choses, les enfants aussi, est-ce qu'ils sont bien, vraiment, comment ils peuvent autoriser de manger des choses sans l'autorisation? Voilà le motif qui a posé que l'oncle puisse maintenant réagir sans vérifier sa colère. Ainsi, comment protéger les enfants contre les violences? La première des choses de ma solution, c'est leur donner les droits qui leur conviennent. Quels sont les droits qui leur conviennent? C'est l'éducation. Bien entendu que l'éducation aussi est vraiment empiétée. Et à autre chose, ils doivent être contrôlés. Est-ce qu'il y a le milieu de divertissement? Est-ce qu'il y a le milieu de loisirs?
Eric, admettons que ces enfants avaient faim et l'oncle n'était pas là. Est-ce qu'ils devaient attendre le retour de l'oncle pour demander la permission? Ou bien ils ont carrément mangé les bananes parce qu'ils avaient faim?
Tout à fait, hein. La maison, c'est un milieu premier de l'éducation. Comment l'enfant peut se permettre de manger quelque chose sans l'autorisation de ses parents? Quoi qu'ils avaient eu faim, ils devaient attendre. S'ils sont bien éduqués, ils ne le prendraient pas sans l'autorisation de ses parents, sans l'autorisation de n'importe qui que ce soit. Ils devaient attendre, non?
Bien. Merci d'avoir appelé M. Godé Kaimbé.
Oui, je crois que le monsieur a tort. Les enfants doivent... à manger, c'est un droit de l'enfant.
la nourriture, c'est un droit de l'enfant. Dans la maison des parents, l'enfant peut accéder à n'importe quoi, manger n'importe quoi, parce que c'est son droit de manger. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout ce que l'enfant mange, il faut nécessairement demander des autorisations. Et lui, le parent demande des autorisations à qui pour manger. Donc, il faut que les enfants aient la liberté dans leur maison. Dans la maison des parents, les enfants sont libres. Ils mangent. Et ils font ce qu'ils pensent faire. Il y a l'intérêt de la famille. Et si un enfant a faim, il a mangé les bananes, il faut le prendre et le tuer. Ça, c'est grave. Et d'ailleurs, même ce qu'il le raconte, ça, c'est très grave. Donc, l'enfant, parce qu'il a voulu manger, il a voulu répondre aux besoins physiologiques, et vous allez le tuer parce qu'il a mangé. C'est très grave. Donc, je crois qu'il y a un problème au Congo. Les gens doivent savoir que l'enfant, il a droit à l'éducation, il a droit à la santé, il a droit à la nourriture. Et c'est droit à la nourriture, c'est son droit. Quand il a faim, il doit manger dans la maison des parents. Donc, il ne doit pas demander de l'autorisation pour qu'il mange. Encore, les bananes. Il a faim, il mange des bananes, et vous le tuez pour ça. Et maintenant, c'est très grave ce qu'ils ont fait. L'acte qu'ils ont posé par rapport à sa situation, c'est très grave. Maintenant, je crois que c'est comme je l'ai dit, il y a un grand problème chez nous, et il faut qu'on revienne là-dessus. La sanction, c'est la meilleure prévention. La sanction, c'est la meilleure prévention.
Donc, cet oncle doit absolument être sanctionné.
Oui, on doit le sanctionner. S'il n'est pas sanctionné, il va contaminer les autres oncles qui vont faire n'importe quoi à leur neveu. Donc, je crois qu'il faut le sanctionner pour que ce soit un exemple dans ces points-là. Et c'est important. Et à ce moment-là, on aura réglé le problème des communautés, des sociétés. C'est un problème des sociétés. Il faut que les gens apprennent que l'enfant a des droits, il faut respecter. Et l'enfant, quand il est à votre charge, il bénéficie de tous les droits, y compris tous les droits de vos enfants, là, il les bénéficie. Si c'était ses propres enfants qui auraient mangé, est-ce qu'ils allaient les brûler? C'est la question qu'il faut se poser. Et toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et d'ailleurs, ce qu'il fait, les choses en antiquité, où quand un enfant mangeait, on va lui brûler les mains, c'est une chose déjà dépassée et révolue. Aujourd'hui, arriver à faire ça, c'est très grave. Il faut absolument qu'il y ait une sanction pour que les autres potentiels violeurs puissent être avertis et éviter de violenter les enfants.
Bien. Comment finir avec les violences faites à l'enfant? Voilà, l'invité nous dit que ces dossiers, cet oncle doit absolument être sanctionné par la justice, mais déjà ouvrir à certaines personnes pensent qu'il y aurait corruption quelque part parce que la personne a été relâchée rapidement et elle bénéficie de la liberté provisoire assez rapidement. Est-ce que Godé Kayembe, par rapport à ce qui est arrivé, les enfants, on peut confier les enfants à d'autres personnes. Est-ce que ils peuvent encore rester chez cet oncle-là?
Non, en principe, comme le papa l'a montré, et sa méchanceté, ces enfants-là doivent être pris en charge, soit par l'église, soit par des organisations caritatives. Dans les coins, là, il y a beaucoup d'organisations caritatives. On lui arrache les enfants, la paternité des enfants. On les confie à une institution ou à une église. Et à ce moment-là, ils seront sous la protection. Et c'est un droit de l'enfant. Lorsque la loi prévoit que lorsque l'enfant est en insécurité, on doit le trouver un autre endroit, une famille d'accueil, où il peut aller vivre, notamment. Et il est très dangereux. Ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Et ce qui lui a manqué, comme on sait que les gens le laissent empoisonner facilement les gens. Je crois que c'est trop facile. Il allait tuer ces enfants-là. Ce qu'il a fait là, ça montre qu'il avait l'intention de les tuer. Donc, il faut absolument les protéger, les éloigner de ces personnes. Et en même temps, il a dû prendre l'attention appropriée. Il y a beaucoup d'organisations à l'Est qui s'occupent des enfants et qui peuvent les prendre en charge.
Alors, Godé Kayembe, si certains parents en arrivent là, peut-être que les enfants ont l'habitude de prendre les histoires sans autorisation. Le monsieur a parlé plusieurs fois, il n'y a pas toujours de changement. Alors, excédé, alors il est passé à la vitesse supérieure.
Ce sont les enfants. Pourquoi on les appelle enfants? Parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils n'ont pas de maturité, parce qu'ils sont des enfants. Il ne faut pas tuer les enfants parce qu'ils ont mangé. Ça, c'est très grave. Même quelle que soit la manière dont vous parlez, il y a des enfants turbulents.
Et vous n'allez pas tuer un enfant turbulent parce qu'il ne comprend pas. Donc l'enfant, c'est l'enfant. Il faut aller avec lui dans les sens où il évolue. Et surtout, assurer sa protection pour qu'il grandisse. Donc si vous avez la charge de protéger un enfant et que vous devrez appliquer la méthode forte jusqu'à vous tuer, vouloir tuer l'enfant, à ce moment-là, je crois que l'enfant n'est pas un parent. Et si c'était ses propres parents, il ne ferait pas ça. Donc je crois qu'il y a lieu que les gens puissent réfléchir deux fois. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant peut manger, il peut manger, il faut le gronder, il faut lui montrer ce qu'il doit faire. Mais vous n'avez pas le droit de pouvoir lui administrer une sanction suprême. Ça, c'est pas normal.
Bien.
Ça, c'est pas normal. Nulle part au monde, après, que les restes.
Bien, Monsieur Godé Kayembe, merci. Je vous rappelle que vous êtes président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL en sigle. Merci d'avoir participé à cette émission et excellente journée.
Merci beaucoup,
mon frère. Okapi Service. Service Plus.
Okapi. À l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste le 6 avril prochain, les fidèles et les officiels congolais se préparent pour bien commémorer les 100 ans d'existence de cette confession religieuse qui coïncidera avec l'inauguration du musée Simon Kimbangu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une série d'activités socioculturelles va également être organisé jusqu'au 30 décembre 2021. Alors comment se déroulent les préparatifs? Suivez, je vais vous inviter à suivre l'entretien que Tati Mapoukou a eu avec Apo Salimba Mwanamungala, chargé des missions du père spirituel de l'église kimbanguiste.
Monsieur Apo, bonjour.
Bonjour.
C'est cette année que l'église célèbre ses 100 ans d'existence.
Effectivement, ça sera le 6 avril 2021 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Kamba qui jusque-là est considéré comme étant le siège international de l'église kimbanguiste, le saint siège de l'église kimbanguiste, là où reste, là où réside le chef spirituel représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani.
Ça sera le 6 avril et toute cette année est consacrée aux festivités marquant les 100 ans de l'existence de l'Église.
Effectivement, raison pour laquelle le chef de l'État n'a pas hésité, juste quand il a remarqué ça, il a dit, étant fils de ce pays, arrière-petit-fils de papa Simon Kimbangu, le père fondateur de l'Église kimbanguiste, en ma qualité du chef de l'État, président de la République, j'accepte de patronner ces grands événements marquant les 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste. 100 ans, on les célèbre en fait face. 100 ans, on les fête. Donc, ça ne peut jamais passer inaperçu. Parce que Papa Simon Kimbangu, en son temps, en 1921, quand il avait commencé son ministère, il avait dit, aujourd'hui, vous m'avez arrêté. Là, il s'adressait aux colons, les Belges qui l'ont arrêté. Nous n'avons pas affaire aux Belges, mais c'est l'histoire que nous retraçons.
Une petite approche historique.
Tout à fait. Aujourd'hui, vous m'avez arrêté, non pas seulement moi seul, avec tous ceux-là qui me suivent. Parce qu'il était arrêté avec plus de 37 000 familles qui étaient déportées, représentant 150 000 martyrs. Ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, vous m'arrêtez, c'est Papa Simon Kimbangu qui dit, mais dans les jours à venir, notre pays sera libre, là. République démocratique du Congo. Ça sera libre et ce pays sera dirigé par le fils de ce pays, non plus vous, blancs. L'homme noir deviendra l'homme blanc deviendra l'homme noir. Cela ne veut pas dire qu'il y aura changement de peau, changement de couleur, non. Les grandes fonctions, président de la République, premier ministre, PDG, ainsi de suite, toutes les fonctions qu'occupaient les blancs à cette époque, Papa Simon Kimbangu, on l'avait bien prédit que dans les jours à venir, les Noirs eux-mêmes occuperont, voilà, raison pour laquelle il dira, l'homme noir, il disait toujours, l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Et dans les jours à venir, ce pays sera dirigé par un fils natif de ce pays. Raison pour laquelle le président Tshisekedi n'a pas hésité. Nous sommes apolitiques, mais nous collaborons toujours avec l'église kimbanguiste, collabore avec les pouvoirs en place, les pouvoirs établis. Et le président a accepté de patronner lui-même les festivités marquant les 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste.
Quelles sont les grandes activités qui seront organisées au cours de cette année?
Il y aura des conférences pour faire comprendre aux gens, surtout aux jeunes, ceux-là qui ne connaissent pas bien, très bien l'histoire de l'Église, aussi aux hommes des médias, qui vous êtes, et comprendre la fondation, l'origine,
la philosophie
de l'Église, l'idéologie de l'Église, quand est-ce l'Église à Villejou, Papa Simon Kimbangu, qui il est, sa femme Maman Mwilou, ses trois enfants, Papa Kisoloki, le Père de Lungana, Papa Dengenda, et les perspectives d'avenir de l'Église Kimbanguiste, que compte faire l'Église dans les jours à venir, comment l'Église Kimbanguiste est implantée, non pas seulement ici en RD Congo, mais partout au monde, en Afrique, ainsi que dans les 5 continents du monde.
Monsieur Apollinaire, 100 ans, c'est pour une institution, c'est l'âge de la maturité. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de l'Église depuis sa création jusqu'à nos jours?
Ah, papa, l'Église Kimbanguiste a fait des grandes réalisations. Nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux, des élevages, des centres agricoles, et des boulangeries. Donc, nous créons toujours, nous ne pouvons pas croiser les bras. Et l'idéologie de Papa Diangenda, Tolona, Tobokola. Donc, l'Église s'investit sur le plan social. L'Église participe activement aux activités sociales pour aider également notre pays. Pourquoi pas les jeunes désœuvrés. Aussi, nous ne pouvons pas passer outre une information qui est les Congolais. Mais le monde entier oublie, Papa Simon Kimbangu, c'est le plus vieux prisonnier du monde. C'est lui qui avait enduré plus de 30 ans.
De détention.
Oui, de détention en prison, une cellule de 1 mètre de longueur et avec 20 mètres de largeur. C'est une pas chose facile, mais Papa Simon Kimbangu a fait 30 ans dans cette cellule à Lubumbashi. Donc, tout ça, il faut que le monde entier connaisse, comprenne. Aussi, nous étudions seulement l'histoire de Charlemagne, Jeanne d'Arc, ainsi de suite. Mais pourquoi pas, dans nos écoles, on étudie également... qu'on puisse intégrer dans les cours d'histoire l'histoire de Papa Simon Kimbangu, de l'Église Kimbanguiste. Parce que c'est l'Église authentique, l'Église de nous Noirs, l'Église de nous Africains. Mais on ne peut pas passer outre cette Église pour parler seulement de Jeanne d'Arc, de Charlemagne, ainsi de suite.
Monsieur Apoll, le 6 avril, une série d'activités sera organisée au niveau de la cité d'Inkamba, Jérusalem. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les gens qui seront invités, les convives de cette activité-là, en dehors des hautes personnalités?
Le chef de l'État lui-même a dit « je serai présent ». Raison pour laquelle il a patronné ça. Il a dit « je viendrai surtout que vous aurez à inaugurer les grands musées » qui est en construction en Kamba Nouvelle-Jérusalem, qui sera inauguré de sa ville 2021, lui-même a dit « Je viendrai ces jours-là couper les rubans symboliques et je ne ferai pas un simple aller-retour Kinshasa-Kamba, mais je passerai 3 nuits, 3 jours en Kamba, je vais y rester. Je vais entrer dans le mausolée, là où Papa Simon Kimbangu repose son corps. »
Merci beaucoup, Monsieur Apollinaire. Nous rappelons que vous êtes le chargé des missions du chef spirituel de l'Église Kimbanguiste. Avec vous, on a eu à échanger sur les grandes activités qui seront organisées au cours de cette année marquée par la centenaire de l'existence de l'Église Kimbanguiste. Merci d'avoir accueilli Radio Okapi chez vous.
C'est nous qui vous remercions. Nous pensons que c'est une première invitation, mais ce n'est pas aussi la dernière. Très prochainement, vous êtes encore le bienvenu.
Et oui, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Willem Lungamba a assuré la mise en onde. Tati Mapuku à la coordination et à la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.